Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Récemment, nous avons abordé le thème « Dieu est amour ». Et aujourd'hui, nous allons continuer notre série de discussions sur le sujet « Comment le chrétien doit-il aimer à son tour ?»
Notre invité Jean-Marc va nous guider dans nos réflexions.
Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
Vous venez d'écouter la lecture du livre du Deutéronome, au chapitre 6, verset 5. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur la question « Comment aimer Dieu ?» Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Nous venons de lire un verset donc, du livre du Deutéronome qui nous encourage à aimer Dieu. Ce verset est cité dans le Nouveau Testament, me semble-t-il.
Oui, selon les évangiles, Jésus le cite comme l'un des plus grands commandements.
Je voudrais vous poser donc deux questions qui me semblent essentielles. D'abord, pourquoi aimer Dieu? Et ensuite, comment exprimer notre amour envers Dieu?
Il est vrai que ce sont des questions importantes. Alors, pourquoi aimer Dieu? Revenons d'abord au texte lu. Ces paroles ont été écrites par Moïse, qui s'adressait au peuple d'Israël, alors qu'ils se préparaient à entrer dans la terre que Dieu leur avait promise. Mais pourquoi aimer l'Éternel? Parce qu'il l'avait prouvé à maintes occasions son amour pour son peuple. Il avait prouvé par là même qu'il était digne de recevoir à son tour son amour et sa confiance.
Rappelez-nous la manière dont l'Éternel leur a prouvé son amour.
L'Éternel avait libéré son peuple de l'esclavage en Égypte. Ensuite, il avait pourvu à tous ses besoins lors de son séjour dans le désert pour finalement le conduire jusque dans la terre promise. L'Éternel s'était engagé à être son Dieu et à demeurer fidèle à ses promesses envers ce peuple.
Donc le peuple d'Israël devait aimer Dieu comme une réponse normale et naturelle à tout ce que l'Éternel avait accompli pour eux. Mais qu'en est-il aujourd'hui?
Le salut que nous avons reçu par la foi en Jésus-Christ devrait inspirer et susciter en nous notre amour pour Dieu. Quand nous avons réellement compris ce que Dieu a accompli pour nous sur la croix, et à quel prix ? Il devient alors tout naturel de vouloir, en retour, exprimer notre amour envers le Seigneur.
En effet, je comprends. Alors Jean-Marc, puisque nous devons aimer Dieu, comment le faire ? Comment pouvons-nous exprimer notre amour envers l'Éternel ? Quelle doit être la nature de cet amour envers Dieu ?
Vous avez raison de poser ces questions, car elles sont importantes. D'abord, souvenez-vous que dans le texte lu, il nous faut aimer l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. Ces paroles prouvent qu'il s'agit d'un amour entier, vrai et sincère, et qu'il s'agit également d'un amour qui engage notre être tout entier. Dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur Jésus s'adresse à des églises par l'intermédiaire de l'apôtre Jean. Entre autres, il déclare à l'église d'Éphèse « J'ai cependant un reproche à te faire ». Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. » Il s'adresse également à l'église de Laodicée en ces termes. « Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Mais puisque tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. »
Autrement dit, notre amour pour le Seigneur doit être entier. Mais comment peut-il s'exprimer dans la vie de tous les jours? S'agit-il d'un sentiment ou bien de quelque chose d'autre?
Il s'agit d'un sentiment, certes. Toutefois, comme nous l'avons déjà vu la dernière fois, la notion biblique du mot « amour » va beaucoup plus loin. Elle s'exprime tout aussi bien par des attitudes que par la conduite et les gestes. Écoutons à présent, pour mieux comprendre la façon d'aimer Dieu, des paroles de Jésus trouvées dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, versets 10 et 12. Pouvez-vous les lire, s'il vous plaît, Yann ?
Oui, bien sûr. « Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, quand moi-même je vous ai aimé.
Comment donc aimer Dieu ? Plusieurs éléments de réflexion apparaissent dans ce texte. D'abord, nous pouvons prendre Jésus lui-même comme modèle, car il nous montre la manière dont nous devons aimer Dieu. Ensuite, nous pouvons exprimer notre amour pour Dieu en obéissant à ses commandements. Enfin, nous montrons que nous aimons Dieu lorsque nous nous mettons à aimer les autres à l'exemple de l'amour de Christ.
Revenons sur l'idée de l'obéissance qui peut paraître surprenante.
J'en conviens volontiers. Cependant, en lisant l'évangile de Jean, il devient clair que Jésus révélait son amour pour Dieu le Père par son obéissance et sa soumission. Toutefois, il faut se demander quelle motivation nous pousse à obéir à une personne. S'agit-il d'une raison suscitée par la peur, parce que l'on craint les conséquences de la désobéissance ?
Ce n'est en effet pas de tout ce qui motivait Jésus.
Bien sûr que non. Jésus obéissait à Dieu parce qu'il aimait Dieu et qu'il voulait lui plaire. L'obéissance, lorsqu'elle est motivée par l'amour, reconnaît que les commandements de Dieu sont bons et justes, et que leur obéir sert nos intérêts et nous procure le plus grand bien-être. De même, nous pouvons exprimer notre amour pour Dieu en aimant ce qu'il aime et en nous détournant de ce qu'il déteste.
Dites-nous donc ce que Dieu aime.
Dieu aime la justice. Nous pouvons donc exprimer notre amour pour Dieu en étant nous-mêmes des personnes justes et intègres et en travaillant pour la justice autour de nous. Dieu aime la pureté. Nous pouvons donc prouver que nous aimons Dieu lorsque nous faisons preuve de droiture dans nos pensées et nos conduites. Dieu aime aussi la paix. Nous exprimons donc notre amour pour Dieu quand nous travaillons pour la paix dans nos relations personnelles. De même, Dieu aime tous les hommes et toutes les femmes. Nous pouvons donc exprimer notre amour pour Dieu toutes les fois que nous aimons, de façon très concrète, notre prochain.
Merci Jean-Marc. Tous ces exemples nous montrent la manière dont notre conduite et notre engagement envers le monde peuvent refléter notre amour pour Dieu. Toutefois, j'aimerais pour terminer vous demander la façon dont l'amour pour Dieu peut s'exprimer dans l'intimité de notre marche avec lui.
Le mot intimité est déjà très parlant. Il montre que nous devons entretenir une relation personnelle avec Dieu. Une fois encore, l'exemple de Jésus peut nous montrer le chemin à suivre. Ainsi, nous savons que Jésus passait beaucoup de temps dans la prière afin d'entretenir et approfondir sa relation avec Dieu. Si nous aimons quelqu'un, nous avons envie de passer du temps avec lui. De même, comment pouvons-nous prétendre aimer Dieu si nous ne recherchons pas les moments privilégiés vécus dans la prière ? Or, dans la prière, nous pouvons exprimer notre amour pour Dieu. Nous pouvons l'exprimer par des paroles de louange et de reconnaissance. Nous pouvons le remercier pour tous ses bienfaits. Nous pouvons, par la prière, rechercher sa volonté pour nos vies et nous y soumettre. De même, lorsque nous aimons une personne, nous aimons écouter ce qu'elle a à nous dire afin de mieux apprendre à la connaître. Ainsi, notre amour pour l'Éternel s'exprime par le désir d'apprendre ce que la Bible nous révèle. C'est la Bible qui nous permet d'approfondir notre connaissance de Dieu ainsi que notre compréhension de sa volonté.
Merci Jean-Marc. Nous devons nous arrêter là, mais nous vous remercions d'avoir fait ce tour d'horizon si clair sur la question « Comment aimer Dieu ?»
Parce que nous venons de parler de l'amour du chrétien, nous voulons à présent méditer sur l'amour de Dieu.
Ainsi, tout au long de cette série, nos méditations bibliques porteront sur les images de l'Ancien Testament, donnant un aperçu de cet amour. Écoutons pour cela les paroles du psaume 23, versets 1 à 3. Ensuite, Alain nous apportera quelques réflexions sur ce texte.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin.
Imaginons quelques instants quelle doit être la vie d'une brebis ou d'une chèvre. De quoi a-t-elle vraiment besoin pour se sentir à l'aise et s'épanouir pleinement ? Elle a certainement besoin de trouver de l'eau pour étancher sa soif et doit se plaire à paître dans des prés verdoyants afin de satisfaire sa faim. Imaginons à présent que cette brebis vive dans une région chaude et aride. Il n'est pas évident d'y trouver de l'eau ou des pâturages nourrissants et les chemins peuvent être rocailleux et difficiles à emprunter. De telles brebis ont besoin d'une personne pour s'occuper d'elles, d'une personne sachant où les conduire pour les satisfaire et prendre soin d'elles. Une brebis a donc besoin d'un berger, et elle dépend de lui car sans lui, elle pourrait se perdre et ne pas survivre longtemps. La Bible se sert souvent de l'image du berger et de son troupeau afin de décrire l'amour de Dieu envers le chrétien. L'extrait du psaume 23 lu tout à l'heure a été écrit par David, devenant roi en Israël, mais qui, avant cela, exerçait le métier de berger. David aimait ses brebis, car il assure que comme lui-même veillait sur son troupeau, ainsi Dieu prend soin de lui. Je voudrais à présent m'arrêter sur cette phrase. Il me rend des forces neuves. Une brebis doit souffrir sous la chaleur brûlante du soleil. Elle doit se fatiguer et s'affaiblir. Aussi, si le berger la conduit auprès des sources d'eau et de verts pâturages, c'est pour qu'elle puisse s'y rafraîchir et reprendre des forces. Il en est de même pour nous. Nous pouvons être lassés de vivre dans un monde marqué par tant de malheurs. Nous pouvons nous sentir las de vivre sous le poids de la routine. Nous pouvons nous sentir surmenés, confrontés à nos responsabilités. Nous pouvons être affaiblis par les épreuves du quotidien. Mais si l'Éternel est notre berger, nous nous savons entre les mains de celui qui nous aime, de celui qui s'est engagé à prendre soin de nous, de celui qui sait répondre à nos besoins. L'Éternel est celui qui peut renouveler nos forces. Les pâturages verdoyants et les sources d'eau calme évoquées dans le psaume représentent tout ce que le Seigneur peut nous procurer pour nous faire du bien spirituellement, tout ce qui peut contribuer à notre repos et tout ce qui peut nous renouveler dans notre fort intérieur. L'Éternel nous offre la Bible. Elle est une source de paroles encourageantes et fortifiantes. L'Éternel nous accorde le privilège de pouvoir le prier, et dans la prière, il apaise nos anxiétés. Il nous donne un regard apaisant sur tout ce que nous pouvons vivre. L'Éternel nous donne l'Église, des frères et des sœurs. Ensemble, nous pouvons profiter de l'enseignement de la Bible. Ensemble, nous pouvons prier les uns pour les autres. Mutuellement, nous pouvons nous encourager et nous conseiller. Toutes ces réalités contribuent au renouvellement de nos forces, afin que nous puissions faire face aux difficultés quotidiennes. Oui, l'Éternel est notre berger, et il nous aime.
Merci Alain pour ces pensées. Elles me rappellent les paroles de l'apôtre Paul qui allait de l'avant, car il puisait ses forces en l'Éternel, qui le renouvelait intérieurement, jour après jour. Nous prions, cher ami, pour que cette expérience devienne la vôtre.
Nous poursuivrons avec nos deux séries sur l'amour lors de notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui. Nous aborderons la question « Comment aimer notre prochain ?» En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.